protestante.
Fréquence protestante.
C'est sur 100.7.
Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Le numérique comme arme de guerre. Bonjour à toutes et tous pour ce numéro de La Valeur de l'Homme. J'ai le plaisir de recevoir en direct et en duplex Maud Kessar. On le sait peu, mais même en temps de paix, les pays rivaux se livrent une guerre permanente à bas bruit, ou disons, une compétition stratégique destinée à déstabiliser l'adversaire. Une compétition qui ne doit pas faire de mort, mais qui n'est pas non plus purement symbolique. Leur arme favorite est celle de la désinformation et de la propagande, auxquelles les réseaux sociaux numériques ont donné une résonance et une échelle internationale inédite. Car après tout, les fausses nouvelles sont un phénomène ancien. L'historien Marc Bloch avait déjà consacré un ouvrage, juste au sortir de la Première Guerre mondiale, pour montrer à quel point le flottement de l'information avait pu être déstabilisant pour les combattants. 100 ans plus tard, l'intoxication de l'ennemi ne s'est jamais aussi bien portée. Sauf que désormais, la propagande ne vise plus à influencer sa propre population, mais celle d'un autre pays. Il y a eu une ingérence russe dans les élections américaines de 2016 et un an plus tard, les Macron Leaks, un peu oubliés aujourd'hui, marquaient la tentative de saboter de l'extérieur le processus démocratique, le processus électoral français. Et ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg. L'usage du numérique comme arme de guerre est donc pris au sérieux par les États qui ont tous lancé des services de surveillance, de protection de leurs réseaux et de contre-information pour ne pas laisser s'installer en interne le discours saboteur de l'autre. Mais la tâche est complexe, car les réseaux sociaux sont détenus par des groupes privés, plus ou moins coopératifs, et la propagande adverse peut se déployer aussi dans des chaînes de télévision qui ont pignon sur rue. Entre hacking, trolling et fake news, comment, en bon français, mener la guerre numérique ? Bonjour Maud Kessar.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Maud Kessar, vous êtes maître de conférence à l'IRSEM, c'est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Vous y dirigez le domaine espace Euratlantique et Russie. Vous êtes spécialiste de la diplomatie publique, du soft power américain et des guerres de l'information. Vous venez de co-diriger avec Céline Maranger, qui est également à l'IRSEM, un ouvrage collectif contenant une vingtaine de contributions qui s'intitule « Les guerres de l'information à l'ère numérique » et c'est sorti en ce tout début d'année 2021 aux presses universitaires de France. Alors je voudrais, Maud Kessar, que vous nous décriviez, à nous et aux auditeurs, cette guerre de l'information, cette nouvelle guerre de l'information. Quels en sont les acteurs et quels en sont les objectifs ?
Alors je vous remercie de parler de nouvelle guerre de l'information parce que comme vous l'avez très bien rappelé en préambule, les guerres de l'information ne sont pas nouvelles, simplement aujourd'hui avec la rupture stratégique que constitue l'ère numérique, eh bien les guerres de l'information ont pris un nouveau virage, un nouveau tournant qui ne date pas en fait des 3 ou 4 dernières années en contexte électoral aux États-Unis ou en France, mais ce virage numérique en fait il date du début du XXIe siècle. C'est une véritable rupture qui a eu cours à ce moment-là, où une multiplicité d'acteurs ont utilisé les nouveaux outils à leur disposition pour mener de nouveaux types de guerre de l'information. Dans l'ouvrage, nous intéressons aux acteurs de type étatique, mais bien évidemment, les acteurs non étatiques, groupes djihadistes ou bien groupes paragouvernementaux, politisés, complotistes, utilisent aussi ces nouveaux outils pour mener les guerres de l'information à l'ère numérique. Nous, ce qui nous a intéressé pour l'ouvrage, c'est d'essayer de comprendre et d'élargir en fait cette vue un petit peu manichéenne que l'on a des guerres de l'information qui aurait tendance à opposer systématiquement les États-Unis à la Russie, alors même que tous les acteurs étatiques utilisent en fait les outils numériques ou non numériques, mais pour pratiquer les guerres de l'information. Donc, il peut s'agir aussi bien d'acteurs de grandes puissances un peu autoritaires, comme la Chine, de moyennes puissances, comme l'Iran, ou d'autres États démocratiques, comme Israël, qui est aussi représenté dans l'ouvrage que vous avez mentionné.
C'est presque devenu, Maud Kessar, un domaine d'étude, un nouveau domaine d'étude de ce qu'on appelle les relations internationales, c'est-à-dire que dans ces relations interétatiques, mais pas seulement, il y a désormais cette question de la guerre de l'information. Donc ce qu'on appelle les internationalistes peuvent désormais s'en occuper et y aller.
Alors, j'en suis ravie, mais c'est bien que les internationalistes s'en soucient, car les guerres de l'information, comme vous l'avez rappelé, même si les outils ont changé, ne sont pas nouvelles. Et en ce qui concerne certaines grandes puissances, comme les États-Unis, l'information warfare ne date pas effectivement du 21e siècle ou de 2017, mais remonte à une période qui est post-45 et qui a pris toute son ampleur pour le numérique un petit peu avant le tournant du 21e siècle, puisque là, le tournant pour les États-Unis, c'est plutôt 1991, la première guerre du Golfe.
Racontez-nous un peu l'origine du livre. C'est à la fois un livre de théorie, mais c'est aussi un livre qui se veut une expertise.
Alors, c'est un livre de pratique et de praticien aussi. C'est vraiment un livre qui est là pour être accessible, rendre didactique et pédagogique ces guerres de l'information à l'ère numérique dont on parle. Et l'idée de ce projet est née justement du fait qu'il y a un cloisonnement trop fort quand on appréhende les guerres de l'information, puisque on a tendance à les appréhender soit par les sciences de l'information, soit par les relations internationales, soit par des études plus civilisationnelles. Donc, ou bien... et puis par un prisme civil et parfois par un prisme militaire. Donc l'ambition de l'ouvrage était de regrouper à la fois les experts qui connaissent les aspects techniques, les moyens que l'on met pour les guerres de l'information, ceux qui le pratiquent sur le terrain dans le cadre d'opérations extérieures comme nos collègues militaires, et puis un certain nombre d'universitaires qui s'intéressent aussi à l'impact que ces guerres de l'information ont, non pas entre les États, mais sur les populations visées, qu'il s'agisse de populations appartenant à des États autoritaires ou bien des États démocratiques.
On va examiner évidemment tout au long de l'émission les moyens qui sont mis en œuvre dans les différents pays ou par les différents pays pour dans cette guerre de l'information. Mais pour qu'on comprenne quand même, disons, quelque chose d'assez fondamental, on est en présence de quoi ? On est en présence d'une compétition entre puissances et de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, on vous l'avait dit, mais on va s'attaquer en permanence, même en temps de paix, par le biais de l'information, on s'attaque ou on est simplement en concurrence, en compétition, on essaie de se déstabiliser. Qu'est-ce qui se joue dans les guerres de l'information, Maud Kessar ?
Alors oui, vous l'avez parfaitement bien donc contextualisé. Aujourd'hui, on assiste à un retour des compétitions de puissance très fortes entre les États-Unis, la Russie, la Chine, mais pas seulement. Et dans les moyens utilisés, dans les vecteurs, dans les piliers de la puissance, effectivement, l'information est importante, l'accès à l'information et la maîtrise de celle-ci. Et derrière la maîtrise et l'accès à l'information, c'est pas simplement la diffusion d'informations qui sont assimilables à des nouvelles dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi tout ce qui touche aux données, puisque aujourd'hui on vit à l'ère du big data, donc de ce volume de données que l'on a sur l'ensemble des citoyens, des sociétés qui nous entourent. Et bien c'est cette maîtrise par les États de ce big data qui peut être un facteur de puissance, et donc ce qui nécessite aussi une maîtrise des outils technologiques pour pouvoir maîtriser le data. Le réguler, le contrôler, avoir la main sur ce qui est un vecteur de la puissance aujourd'hui.
Un des éléments, un des objectifs poursuivis dans et par cette guerre de l'information, Maud Kessar, c'est d'essayer de porter atteinte à la souveraineté des États. Comment on s'y prend ?
Alors absolument, c'est un des enjeux qu'on souligne tout de suite dans l'ouvrage, puisqu'on en a eu des illustrations récente qu'on rappelait tout à l'heure, et effectivement, contexte électoral, le fait d'avoir une ingérence étrangère possible en utilisant le relais des plateformes numériques pour subvertir, déstabiliser la vie démocratique, est une atteinte donc à la souveraineté des États. Ça, c'est sur le plan de la vie politique et démocratique donc de certains États occidentaux. Ça a été le cas des États-Unis, de la France, mais bien d'autres États se trouvent inquiétés, malmenés ou perturbés par ce type d'atteinte. Il faut regarder aussi ce qui se passe chez nos alliés, nos partenaires en Asie, qui se trouvent aussi dérangés dans leur et inquiétés pour leur souveraineté par certaines attaques qui peuvent être chinoises ou russes. Pas simplement, c'est pas toujours les mêmes acteurs que nous avons l'habitude de pointer du doigt. Alors c'est très difficile d'attribuer les attaques quand on parle de guerre de l'information, mais il y a quand même quelques éléments qui permettent retrouver l'origine en fait, de ces déstabilisations et d'essayer de s'en prémunir, de s'en préserver.
Si on veut être très concret, là encore, pour les auditeurs, Maud Kessar, une cyberattaque, ça ressemble à quoi ? C'est entrer dans le réseau informatique d'un autre pays, c'est changer les données dans une série d'ordinateurs ou envoyer des fausses données. Comment ça se passe une cyberattaque qui est quand même une des armes, disons, très utilisées dans la compétition que vous décrivez ?
Les cyberattaques, ça peut favoriser le fait de faire fuiter des informations. Ça, dans la guerre de l'information, c'est ce qui nous intéresse. Après, il y a des cyberattaques d'un autre ordre quand il s'agit d'opérations d'information, tout simplement pour rentrer dans les services informatiques effectivement d'un autre pays ou bien d'une entité qui peut être une entité privée, ça peut être un hôpital. Hein, et c'est là que la cyberattaque peut apparaître la plus dangereuse et on en a eu des exemples récents. Ça peut être pour effectivement modifier des données, des informations sur une personne. Imaginez que si on attaque la sécurité sociale en France et que l'on se met à modifier l'ensemble des données qui sont préservées ou qui concernent chacun des citoyens, bien on peut en faire beaucoup de choses. Et ça, c'est effectivement une des dimensions qui fait que des vulnérabilités de tous les États, démocratiques ou non, sont à surveiller plus particulièrement.
Dans l'ouvrage, vous indiquez par exemple qu'il y a eu une cyberattaque ciblant des données, et notamment des données médicales, et on a le pays qui a attaqué a apparemment changé dans des bases de données les groupes sanguins ou le groupe sanguin des soldats, qui fait qu'effectivement, si on doit les prendre en charge et les transfuser, on va leur transfuser un sang qui n'est pas bon, en tout cas, si on ne se rend pas compte du changement de données. Là, il y a quand même quelque chose de très imaginatif et de très pervers dans ce type de cyberattaque, Maud Kessar.
Ça fait partie de cette guerre semi-ouverte que vous décriviez tout à l'heure, donc entre la guerre ouverte, la guerre chaude et la guerre froide, cette zone grise où tous les moyens sont mis en œuvre pour pouvoir déstabiliser l'adversaire et pourquoi pas donc des moyens comme ceux que vous évoquiez qui font référence à un scénario de crise, hein, plus précisément dans l'ouvrage.
D'accord. Et alors, ça marche aussi pour, vous ne l'avez pas mentionné, mais une cible sensible qui serait les centrales nucléaires. Là, c'est des cibles qu'évidemment on a en tête à la fois pour la défense et pour l'offensive.
Oui, alors là, on est plus dans le cadre des cyberguerres, plus que dans les guerres de l'information. Mais effectivement, on a eu des exemples qui n'ont pas touché les États occidentaux, mais l'Iran, hein, qui est mentionné aussi dans l'ouvrage, absolument, c'est une difficulté. Là, c'est une dimension qui va être, on va dire, plus technique et qui touche à la sécurité en fait, des infrastructures. Mais ce n'est pas forcément toujours lié à une volonté d'accès à l'information. Là, il s'agit juste simplement de vouloir stopper le fonctionnement d'une infrastructure. Donc, c'est un petit peu différent.
Si on en revient alors effectivement aux guerres de l'information, votre introduction et puis une grande partie de l'ouvrage insiste sur le fait que les démocraties sont sinon mal armées, du moins fragiles par rapport à d'autres types d'États parce que, précisément, l'information circule librement et n'est pas contrôlée par l'État. Donc, il y a là quelque chose de très à la fois inquiétant et passionnant dans le cas des démocraties, c'est le fait qu'elles peuvent être déstabilisées par leur propre croyance ou volonté d'être dans la liberté d'expression.
Oui, alors ça, c'est pas un phénomène très nouveau et ça nous ramène aussi à une période un peu de guerre froide, c'est qu'en régime pluraliste, puisque toutes les opinions peuvent s'exprimer, puisque les flux d'informations ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas filtrés particulièrement, ils ne sont pas censurés, et bien effectivement, cela est plus exposant et ça crée des vulnérabilités. Et la réponse des sociétés démocratiques, ce n'est pas de le contrôle, comme ça peut l'être dans les États autoritaires, c'est la capacité de résilience et de favoriser plus de pluralisme pour être peut-être plus réactif et plus résilient aux éventuelles manipulations de l'information ou contenus malveillants qui peuvent être accessibles en source ouverte pour la population.
Alors être résilient, Maud Kessar, ça prend quelle informe. On laisse effectivement l'information circuler sans contrôle, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va démentir, inonder les réseaux sociaux d'une autre information, d'une information vraie ou vérifiée. Comment se passe la résilience des États démocratiques ?
La résilience des États démocratiques, c'est à la fois un défi, c'est-à-dire qu'on peut essayer de l'organiser au niveau étatique ou entre États, c'est ce qui se passe pour la France ou pour les États européens. La résilience peut être aussi déjà culturelle, c'est-à-dire que si on compare le rapport à l'information dans certaines démocraties occidentales, on se rend compte que l'accès à la culture et à l'information peut être plus développé dans certains États européens aux États-Unis, où on a une vie politique déjà très polarisée et un accès à l'information qui est lui-même très politisé et très polarisé. C'est ce qui explique aussi le fait que peut-être lorsque vous évoquiez l'élection de 2017 d'Emmanuel Macron et des Macron Leaks, la société française a été peut-être plus résiliente aux manipulations de l'information, à ces fuites concernant les données personnelles en fait de l'équipe du candidat Macron que la société américaine ne l'a été au moment de la campagne présidentielle de 2016. Et ça, c'est un des points de comparaison qui peut être intéressant. Donc la résilience, elle peut être liée à la culture du pays et aux habitudes des populations, mais elle peut aussi s'organiser sur le plan régalien ou législatif, en coordonnant en fait les actions des différents ministères qui sont chargés de protéger les citoyens, que ce soit la justice, les affaires étrangères. On le voit aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est l'éducation et la culture, et qui peut être aussi assez encadré par l'éducation aux médias. C'est plus facile peut-être à penser, à organiser dans un État plus centralisé comme la France que quand des États qui sont des États fédéraux comme les États-Unis ou l'Allemagne, où le système éducatif est peut-être moins homogène.
Je précise que votre ouvrage, Les guerres de l'information à l'ère numérique, que vous avez co-dirigé avec Céline Maranger, il y a à la fois des articles transversaux et puis il y a des entrées par pays. Alors restons peut-être sur un ou deux pays. Vous le disiez dans votre première prise de parole, on a beaucoup tendance à se focaliser sur la Russie, qui est effectivement extrêmement active, la Chine aussi, et on a tendance peut-être à considérer qu'on est toujours dans une logique de guerre froide. En tout cas, votre ouvrage insiste sur le fait que c'est pas vrai, mais qu'en tout cas, c'est la carte mentale d'un certain nombre de dirigeants de penser cette guerre de l'information d'abord comme une espèce d'affrontement Est-Ouest, comme on disait avant, Maud Kessar.
Alors, tout à fait, vous avez tout à fait raison de parler de carte mentale des dirigeants à distinguer de la réalité de la guerre de l'information à l'ère numérique. Carte mentale parce qu'effectivement, nos dirigeants occidentaux et les dirigeants sans doute américains en particulier, on en a une bonne illustration avec l'administration Biden, sont des dirigeants qui sont bien nés au XXe siècle et qui ont cette carte mentale de la guerre froide. Et ces dirigeants-là, c'est pas simplement l'équipe du président Biden, c'est aussi les membres du Congrès qui ont un recul, une histoire et une façon de réagir à des problématiques internationales qui est très calquée, ancrée dans le processus de guerre froide. On comprend parce que la guerre de l'information n'a jamais été aussi importante que pendant la guerre froide, qui est quand même l'archétype en fait d'une guerre de l'information très polarisée entre l'Est et l'Ouest, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ce qu'on essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est qu'il y a des phénomènes de circulation importants dans ces pratiques des guerres de l'information. Il n'y aurait jamais eu de machine de propagande américaine s'il n'y avait pas eu de formidable machine de propagande soviétique bien avant donc, que les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, mettent en place leur propre machine de propagande. Et dans les années 90, alors que les États-Unis sont la puissance un petit peu unipolaire et développent un système médiatique assez efficace et offensif avec de grands médias comme CNN, notamment du côté audiovisuel, eh bien, on se rend compte que la Russie, par réaction, notamment donc, au début des années 2000, a elle-même développé un système médiatique très large, très calqué sur finalement l'exemple américain. Donc il y a un jeu de miroir, de réponse et de circulation dans les pratiques qui nous amène au XXIe siècle et qui explique aussi parfois que la réaction des politiques soit assez ancrée dans cette époque de guerre froide. Il est vrai que là, quand on prend l'exemple de ce qui s'est passé en 2016, les hommes politiques américains ont été surpris, hein, ça a été un peu une surprise stratégique, cette histoire de l'ingérence russe dans les élections américaines, parce que ce qui les a surpris, c'est pas tant qu'on pratique des guerres de l'information, c'est qu'on les pratique sur leur propre territoire et avec des outils numériques et des canaux, tuyaux que constituent les plateformes qui ne sont pas étrangers au système américain. Et c'est ça peut-être qui change. Donc on a un héritage de guerre froide, des réflexes de guerre froide, mais on a des outils différents et on a aussi des cibles et des objectifs qui sont différents, que vous avez parfaitement rappelé en préambule de l'émission en disant bien que là, on s'attaquait directement aux systèmes électoraux et à la vie intérieure des États.
Dans ce jeu de miroir, Maud Kessa, on peut aussi se demander si les dirigeants russes n'ont pas la même carte mentale aussi héritée de la guerre froide, parce qu'à la lecture de l'ouvrage, on se rend compte qu'une partie de l'activité sur les réseaux numériques de l'État russe, c'est de lutter contre l'impérialisme américain, on va le mettre entre guillemets, ou de soutenir les souverainismes en Europe, ou de justifier l'annexion de la Crimée. Donc ils sont aussi là dans une logique qui ressemble à presque la logique soviétique.
Ils sont dans une logique qui est une logique de propagande avec des messages qui sont très compréhensibles et qui s'inscrivent bien dans le fait de justifier ou de légitimer un agenda politique qui est celui de la Russie.
Ils essayent de mimer, ou en tout cas, vous l'avez montré, il y a des circulations. Donc, la création de chaînes comme Russia Today ou Sputnik, qui sont des chaînes d'influence russe, on va le dire comme ça, c'est pour contrer ou calquer ce qui peut se passer avec CNN, par exemple.
Alors, c'était le sens de mon propos sur la circulation, hein, puisque ça fonctionne bien. Après, dire que l'impact de RT et Sputnik est le même que celui de CNN, c'est peut-être un petit peu trop fort, et c'est pas forcément ce que l'on dit dans l'ouvrage. Simplement, RT et Sputnik sont les illustrations d'un appareil de propagande d'État assez large et assez développé qui donc insiste sur les relais médiatiques. Mais ce qui est intéressant et ce que l'ouvrage montre aussi, c'est que au-delà de cette circulation, de ce mimétisme qu'on a avec l'autre grande puissance, la puissance américaine, c'est que RT et Sputnik savent faire relayer leur message grâce donc aux acteurs numériques et aux différentes plateformes. Et c'est ça qui est intéressant et qui change par rapport aux phénomènes plus anciens qui axaient la compétition de l'information sur les médias radiophoniques et audiovisuels. Hein, parce que pendant la guerre froide, par exemple, c'était une compétition des radios à laquelle on assistait. Là, on a une compétition télévisuelle, mais on a une maîtrise du message et une maîtrise aussi des outils numériques, des algorithmes, qui est particulièrement utile, intéressante, efficace.
Avec quand même des formes d'influence et de réussite, parce que l'ouvrage indique à un endroit, à un moment, que Russia Today, en termes de trafic mondial, Russia Today est 269e et France 24 est 4760e. Là, Maud Kessar, on a raté quelque chose là en termes d'influence. On s'est laissé distancer.
Alors peut-être que traditionnellement, le rayonnement culturel français passe par autre chose que l'accent sur les médias d'État. On a d'autres relais. La francophonie en fait partie, les centres culturels français. La France a une longue histoire de promotion de sa culture à l'étranger et joue peut-être plus sur la culture et les idées que sur la propagande. Et c'est ce qui distingue peut-être un État démocratique d'un État autoritaire.
On va écouter justement, pour rester sur le cas français, je vous entends bien, un reportage de France 24. Sur les Macron Leaks, dans lequel nous pourrons entendre, ils vont parler en anglais, c'est bref, hein, successivement, John Demers, qui est procureur général adjoint des États-Unis, et Mike Rogers, qui est l'ancien directeur de la NSA, qui va incriminer la Russie dans ces Macron Leaks.
L'affiche est claire, recherchée par le FBI. 6 hommes, agents du renseignement militaire russe, le GRU, que la justice américaine inculpe formellement pour une série de cyberattaques. la plus perturbatrice et destructrice jamais attribuée à un seul groupe, selon le procureur.
As this case shows, no country has weaponized its cyber capabilities as maliciously and irresponsibly as Russia, wantonly causing unprecedented collateral damage to pursue small tactical advantages and fits of spite.
Les espions pirates auraient depuis Moscou piloté des attaques dès 2015 contre le réseau électrique ukrainien. Mais c'est surtout en 2017 qu'ils auraient fait le plus de dégâts. En France, c'est la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron qui est ciblée. Les emails de ses collaborateurs ont été infiltrés, puis des documents authentiques mêlés à des faux, ensuite diffusés sur le web.
We had become aware of Russian activity. We had talked to our French counterparts prior to the public announcements of the events that were publicly attributed this past weekend and gave them a heads up.
Pour le renseignement américain, les mêmes agents russes sont responsables du logiciel rançon NotPetya. Ce dernier avait contaminé des dizaines de milliers d'ordinateurs sur la planète et paralysé de nombreuses infrastructures comme des hôpitaux américains, de grands ports et aéroports ou la sécurité du site contaminé de Tchernobyl. En 2018, les agents sont soupçonnés d'avoir pris part aux attaques contre les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, en se faisant passer pour des pirates nord-coréens. Moscou n'a jamais reconnu sa responsabilité dans ces attaques et dénonce de son côté un discours russophobe et une guerre psychologique contre la Russie.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, le numérique comme arme de guerre, nous sommes en direct et en duplex avec Maud Kessar. Alors peut-être sans s'attarder sur le cas des Macron Leaks, mais qu'on comprenne un peu la logique de ce type de déstabilisation, c'est qu'un État, alors ici on va dire la Russie, a quand même comme objectif final de faire passer... un candidat, voilà, c'est l'idée, Maud Kessar, on va essayer d'avantager un candidat et donc on va déstabiliser un processus électoral démocratique.
On ne sait pas si la finalité, parce que c'est une question de finalité hein, qui se pose ici, surtout si on parle de guerre psychologique, comme c'était le cas dans le document que l'on vient d'écouter, on ne sait pas si l'objectif final, la finalité, est de faire passer un candidat plutôt que l'autre. L'objectif que l'on peut mesurer, c'est la déstabilisation de la vie démocratique. Et ça, c'est quantifiable, parce que la grande difficulté des guerres de l'information, et justement des objectifs de déstabilisation, c'est de pouvoir quantifier ou mesurer l'impact qu'elles ont sur les cibles, et les cibles, ce sont les citoyens d'un État démocratique, ça peut être la France, ça peut être la Grande-Bretagne, les États-Unis ou le Japon. Dans le cas français, la déstabilisation a été minorée à la fois par le type de système de processus électoral qui est le nôtre, hein, puisqu'il y a deux tours, et puis peut-être, comme je le rappelais tout à l'heure, un accès à l'information plus diversifié, des réflexes plus diversifiés. L'idée plutôt, ce qu'on observe, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est plutôt d'accentuer la polarisation, d'accentuer les écarts, d'entretenir les divisions, d'entretenir les extrêmes. Et aujourd'hui, on parlait des Macron-Leaks de 2017, nous sommes aujourd'hui en 2021, nous avons eu une campagne américaine très très polarisée en 2020, avec aussi des brèches très connues, des divisions très connues, mais une polarisation aux extrêmes marquée par les réseaux complotistes et nationalistes. Donc brèches dans lesquelles s'engouffrent tous les acteurs qui veulent essayer de subvertir ou de manipuler l'information. C'est plutôt ça qu'il faut regarder. C'est plutôt le semer le chaos que de vouloir faire passer un candidat plutôt que l'autre, ce qui est quand même plus commode aussi pour les candidats.
Oui. Et puis c'est compliqué de contrôler une élection à distance. Mais l'idée, effectivement, c'est de polariser et de créer des brèches et de, au fond, d'aggraver, disons, la crise démocratique ou la crise de la représentation qui peut affecter un certain nombre de pays. Donc il y a l'idée, là, pour les pays agissant de l'extérieur, de retourner un peu la démocratie contre elle-même ou de profiter de ses faiblesses, un peu ce qu'on disait en début d'émission. Donc si on arrive à la déstabilisation, elle passe par l'aggravation d'une instabilité nationale, Maud Kessar.
Absolument, l'aggravation des crises intérieures, et ce n'est pas valable que pour les États-Unis. Là, c'est exacerbé. En France aussi, nous avons des crises intérieures, et peut-être que pour des puissances en concurrence, puisque vous rappeliez que tout cela est aussi un jeu de compétition entre puissances, quand on a des modèles démocratiques qui s'effondrent et qui ne font plus figure de solidité, de fiabilité ou de stabilité, le cas américain est quand même, pardon d'y revenir, mais c'est vrai qu'avec les événements du Capitole du 6 janvier, on voit bien effectivement que bien réguler l'information, comprendre comment ça se passe et aussi essayer de minimiser les dégâts que cela peut causer sur l'image même du pays à l'étranger, tout ça est suffisant. Il suffit d'observer les réactions que les États autoritaires ont eues après les événements du Capitole en disant « Regardez, nous, ça fonctionne quand même beaucoup mieux chez nous, on fonctionne de manière beaucoup plus calme, posée, et nous, on peut faire figure de modèle, peut-être plus que ceux qui ont voulu vendre la démocratie dans le monde entier. » C'est très compliqué.
Oui, on voit ça comme c'est l'anarchie aux États-Unis, en fait. C'est présenté comme ça.
C'est un système qui fonctionne plus, qui semble grippé.
Alors, on va venir au cas américain que vous avez déjà un peu évoqué. Vous montrez dans l'ouvrage et dans votre contribution en particulier que donc les États-Unis se sont, mis en ordre de bataille pour organiser donc ce qu'on appelle la défense informationnelle. Je voudrais que vous nous racontiez, Maud Kessar, un peu les formes de cette défense informationnelle et puis peut-être aussi évoquer le fait, dites-vous, qu'elle s'est fortement militarisée. Alors, à quoi ça ressemble la défense informationnelle aux États-Unis ?
Alors, ce qui est intéressant justement dans les événements un petit peu récents de ces dernières années, c'est que les États-Unis sont peut-être passés d'une posture trop défensive à une posture un peu plus offensive. Donc, la difficulté de la défense informationnelle que vous évoquez, c'est la difficulté de réagir, de lutter contre la désinformation. Et pour cela, la principale faille que l'on observe aux États-Unis, mais pas seulement, donc dans les sociétés démocratiques, c'est la difficulté à coordonner les différents acteurs qui vont pouvoir se défendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coordonner différents acteurs ? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que d'une question de sécurité nationale et donc de mobiliser le Pentagone pour lutter contre la désinformation qui pourrait venir déstabiliser la démocratie américaine. C'est aussi mobiliser d'autres acteurs de ministères régaliens dont on parlait tout à l'heure sur le plan intérieur. Ça va être le département de la justice aux États-Unis. Ça va être aussi, peut-être pour la première fois, une coordination entre le FBI et les services de renseignement américains, puisque habituellement, ils ne fonctionnent pas forcément ensemble, mais aussi être capable de travailler avec tous ces agents des corps diplomatiques qui dépendent du département d'État et qui vont pouvoir se coordonner avec donc les acteurs du Pentagone. Tout ça était en ordre de marche bien avant les événements donc, de 2016-2017. Mais cela marchait plus ou moins bien et peut-être avec plus ou moins d'urgence, puisque l'urgence pour les Américains, c'était d'abord de se défendre contre les menaces informationnelles menées par les groupes djihadistes et particulièrement contre Daesh. Mmh. Avec donc les élections de 2016, eh bien, on assiste à un tournant et les États-Unis prennent conscience qu'ils doivent aussi et surtout se méfier donc de ces menaces informationnelles qui peuvent venir d'autres États, pas simplement la Russie, hein, mais aussi l'Iran, la Corée du Nord ou la Chine. Voilà, donc cette défense, elle doit s'organiser par rapport à ces acteurs-là. Et quand je disais qu'on était passé d'une posture peut-être un peu défensive à offensive, parce que sous l'administration Trump, on a eu quand même un renforcement donc du cybercommande américain qui était jusqu'à présent plutôt en ordre de marche un petit peu lent, avec une coordination difficile entre les actions défensives et offensives. Et à partir de 2018, sous l'égide du général Nakazoni, qui commande le cybercom américain, eh bien, les Américains ont voulu adopter une posture plus offensive en parlant d'opérations préemptives ou préventives quand il s'agit de se prémunir d'attaques informationnelles. Et là, on a eu quand même un tournant important. Donc, le cyber vient se coordonner aux différentes contre-mesures qui sont prises par les États-Unis.
Mais ce qui veut dire, vous avez mentionné le général Nakasone, c'est que c'est pris en charge véritablement par un général, c'est-à-dire que c'est pris en charge comme une guerre virtuelle, mais dans une logique de défense ou d'offensive ici guerrière, Maud Kessar.
Oui, on parle de lutte informationnelle, absolument. Et donc, ça nécessite simplement dans cette lutte de bien comprendre qui fait quoi et de mobiliser tous les outils. Ça ne veut pas dire que le général Nakazoni va coordonner l'ensemble des actions de lutte informationnelle. Lui va coordonner les actions cyber, mais il devra pouvoir en rendre compte à l'ensemble de ses collègues du Pentagone ou des autres agences ou services donc, de renseignement qui peuvent aider à cette lutte. Donc informationnel. Tout cela se gère au plus haut sommet de l'État et au plus près du président américain avec un office de coordination donc de la communication stratégique et de la gestion de l'information à l'étranger.
À côté de ces éléments que vous venez d'indiquer, il y a aussi l'idée de ce qu'on appelle une diplomatie numérique. Vous avez mentionné le corps diplomatique, Maud Kessar, mais aussi des formes de soft power, de pouvoir doux, même si on ne le traduit pas comme ça en français, hein, de soft power numérique. À quoi ça ressemble, le soft power numérique américain ?
Alors, l'idée, c'est de pouvoir générer du narratif et du contre-narratif. On a beaucoup parlé des Russes tout à l'heure, on a parlé de Russia Today, de Sputnik, ce que la Russie veut vendre, c'est un narratif qui lui permet de légitimer ses actions à l'extérieur. Les États-Unis n'ont pas fait autre chose pendant la guerre froide, comme on le rappelait, donc historiquement. Seulement aujourd'hui, il faut que ce narratif, d'abord, qui est du contenu à vendre, à promouvoir, et là, on est plutôt dans des outils du soft power, et puis, surtout, il faut se donner les moyens de pouvoir bien le vendre avec les outils d'aujourd'hui, les outils contemporains, qui sont les outils numériques. Et c'est là, peut-être, que le bât blesse, car la difficulté américaine depuis plus d'une dizaine d'années, c'est d'être capable d'utiliser les outils numériques, les plateformes, pour pouvoir vendre un discours, promouvoir les valeurs et les intérêts d'une nation en utilisant ces outils numériques à bon escient. Et ce n'est pas toujours si facile que ça quand on est diplomate ou agent agent au service du département d'État et qu'on veut faire cette promotion-là parce que toucher les publics cibles, c'est moins aisé que quand on travaille pour Google ou Facebook. Et c'est pour ça que les partenariats entre les institutions publiques et peut-être le département d'État aux États-Unis et les grandes plateformes du numérique est particulièrement important si l'on veut restaurer le narratif national, c'est-à-dire une histoire américaine que l'on peut vendre à tous et pas simplement en utilisant des grands médias traditionnels, papier ou audiovisuels, mais en utilisant aussi les réseaux numériques qui touchent toutes les cibles, tous les publics visés à l'étranger qui représentent un intérêt pour les intérêts américains qui sont vitaux.
Et alors, comment se passe cette collaboration ? Parce que, justement, il y a à la fois en jeu des institutions publiques, hein, le département d'État, mais qui doit composer avec des réseaux sociaux numériques qui sont détenus par des groupes privés ou qui sont des groupes privés. Donc, on n'est plus du temps où Hollywood se mettait en ordre de bataille dans la propagande anti-nazie en tournant des films. Là, est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce que les réseaux sociaux numériques, qui sont ici majoritairement américains, ont compris les enjeux et laissent passer ou est-ce qu'au contraire, ça leur pose un problème d'être instrumentalisé, Maud Kessar ?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que les plateformes soient instrumentalisées par une relation avec le département d'État. Je pense que c'est plutôt un partenariat, une bonne coopération. Ça a été le cas sous Obama et avec Hillary Clinton. Après, cette coopération, en fait, s'est particulièrement interrompue sous Trump, puisque, comme vous le savez sans doute, ça a été largement relayé. La coopération entre le département d'État et les plateformes a été beaucoup plus difficile au cours des 4 années qui viennent de s'écouler. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une question de partenariat, comment on peut faire davantage tomber les murs de l'Internet et avoir plus d'utilisateurs pour les plateformes et comment les États-Unis peuvent utiliser les plateformes pour mieux coopérer, réguler les messages et promouvoir une bonne image de l'Amérique. Sans doute que les plateformes contribuent aussi au branding, donc à l'image de marque des États-Unis à l'étranger. Et donc, dans les deux cas, c'est du donnant-donnant.
Dans ce narratif, vous avez indiqué qu'il contenait, l'idée de donner une bonne image des États-Unis. Est-ce qu'il passe par d'autres éléments ? Par exemple, quand les États-Unis sont en opération extérieure, est-ce que le narratif va essayer d'obtenir, va viser à obtenir le soutien des populations locales, du pays dans lequel on intervient ?
C'est tout à fait l'idée de donner une bonne image de la... Alors là, ça va être une bonne image de la présence de troupes américaines à l'extérieur ou sur un territoire précis, oui, est nécessaire pour mener des opérations extérieures dans un cadre pacifié. Et c'est bien l'idée. Donc là, ça nécessite d'avoir pas un narratif global, mais peut-être un narratif simplement qui soit au plus près des actions et de l'explication auprès des populations locales de ce que peuvent faire des troupes américaines présentes en Afrique ou au Moyen-Orient, au Proche-Orient par exemple.
On essaye, est-ce que les États-Unis essayent aussi de déstabiliser ou en tout cas de subvertir des populations de pays étrangers, par exemple en essayant de promouvoir un Internet libre, en essayant de dénoncer les agissements du régime dans ce type d'attaque informationnelle ou dans ce type de soft power, ça prend aussi cette forme, essayer de dénoncer ce qui peut se passer dans un autre pays.
Je pense que ce n'est pas des attaques de subversion. Là, il s'agit de les différents gouvernements américains ou administrations qui ont essayé de promouvoir un Internet libre et donc de faire tomber les murs de l'Internet l'ont fait au nom de valeurs démocratiques. Ça a été le cas pour la première administration Obama avec Hillary Clinton et il semblerait que ce soit le cas aujourd'hui avec l'administration de Joe Biden. L'idée est de lutter contre l'autoritarisme et donc de favoriser les flux d'informations. C'est un petit peu finalement un débat qui est proche de l'histoire du XXe siècle et d'Helsinki, des accords d'Helsinki qui visaient à promouvoir la libre circulation des hommes et des idées. Et bien aujourd'hui, c'est de la libre circulation des flux d'informations, y compris dans les États autoritaires que veulent promouvoir certains États démocratiques, dont les États-Unis.
Mais alors du coup, dans le cas des accords d'Helsinki, ça avait mis une pression très forte sur le bloc soviétique. Est-ce que là, il y a le même type de pression ou est-ce que finalement, tout le monde utilisant les mêmes outils, ça s'équilibre ?
Je pense que ça met de la pression, bien évidemment, mais que les outils pour se protéger de la part des États autoritaires sont plus efficients, plus efficaces. Les Russes veulent essayer de créer un Internet souverain, même s'ils n'y sont pas parvenus. Les Iraniens se protègent techniquement de la possibilité d'une information étrangère qui viendrait déstabiliser leur régime. Donc, il y a une forte conscience de la part des États autoritaires que vivons en autarcie informationnelle et protégeons notre régime. Et je pense que le meilleur exemple que l'on ait, qui est assez amusant, intéressant dans l'ouvrage, d'un autre âge, c'est la Corée du Nord. Si vous avez regardé ça, je pense que ça a tout son intérêt.
Donc, c'est des pays qui vont continuer dans des formes d'autoritarisme par le biais d'un verrouillage complet. Donc là, j'allais dire, ils ne jouent pas le jeu, ils n'ont pas de raison de le faire, mais ils se ferment. Maud Kessar.
C'est un contrôle de l'information total. C'est bien ce qui différencie les États démocratiques des États autoritaires. Donc, il y a de l'enjeu pour tous.
Une dernière question. Est-ce que vous diriez, Maud Kessar, qu'on est rentré dans une guerre mondiale des récits, une guerre mondiale des narratifs ?
Oui, absolument. On est dans une guerre mondiale des narratifs et qui ne concerne pas que les narratifs des États. Ça concerne aussi maintenant des acteurs qui sont paragouvernementaux, pas forcément non étatiques, et je pense aux groupes complotistes et nationalistes qui propagent aussi des narratifs et des contre-narratifs en utilisant une partie, pas forcément faisant du contenu malveillant, mais en reprenant des informations pour entretenir leur propre narratif, parfois totalement donc délirant, comme on a pu l'observer, mais qui fonctionne bien avec des bons relais d'amplification et d'excellents réseaux. Et je pense que la menace, puisqu'on parle de menace, nous, dans l'ouvrage informationnel, elle vient principalement aussi aujourd'hui donc de ces acteurs, de ces électrons libres, des systèmes ou des réseaux de propagande, des écosystèmes de propagande du XXIe siècle.
Donc des acteurs infra-étatiques, mais avec qui ont eu un certain succès, on l'a vu avec le complotisme. Et QAnon, merci beaucoup, Maud Kessar, pour votre participation. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de publier sous l'égide de l'IRSEM avec Céline Maranger, Les guerres de l'information à l'ère numérique. C'est paru au PUF en début d'année. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. Prenez soin de vous et à bientôt.